Chapitre 9e. De tels malaises, où toute la force de l'âme se consume dans le martyre de l'anxiété, lui donne un si passionné besoin d'en sortir qu'aucune barrière ne tient la contre quand l'occasion s'en offre. Après des heures et des heures passées dans ce débat contre une navrante évidence, et tandis que sa mère faisait dans la pièce voisine sa sieste accoutumée après le déjeuner, René se tenait dans sa chambre à elle, debout, le front appuyé contre la vitre de sa fenêtre, et elle regardait le jardin, si joyeusement traversé cet hiver pour gagner le salon, quand Ériel l'y attendait et qu'elle allait danser avec lui. Le mistral était tombé. Des nuages pesaient sur la campagne. Elle goûtait une mélancolique douceur à considérer l'horizon voilé de ce début d'après-midi et ce ciel gris, dont la morne lumière contrastait avec le radieux azur africain épandu d'ordinaire sur ses palmiers et ses yuccas, ses mimosas et ses roses. N'était-ce pas un symbole de sa détresse d'aujourd'hui, succédant à ses allégresses d'alors? Tout à coup, elle reçut comme un choc au cœur. Rêvait-elle? Cet homme, qui sortait de la porte de l'hôtel et s'engageait dans ce jardin, était-ce vraiment Ériel? Mais oui! Elle reconnaissait son port de tête si droit, un peu altier, sa taille mince, sa démarche souple et leste même dans la lenteur. Comme en cet instant où il s'occupait prosaïquement à ranger des billets de banque dans son portefeuille. Il était, sans nul doute, venu au palace pour régler l'arriéré de ses leçons de danse. « Quand on gagne ce qu'il gagne, en travaillant comme lui, » pensa René devant ce geste, « on n'est pas un voleur. » Et aussitôt, « ah, il faut que je sache. » Déjà, impulsivement, et sans réfléchir davantage, elle était dans l'escalier, tête nue. D'un élan, elle descendait les marches. Elle sortait, elle aussi, de l'hôtel, mais par une autre porte. Elle s'engageait dans une allée qui coupait celle où passait Ériel. Son frère Gilbert se tenait à deux pas, sur la terrasse du rez-de-chaussée. Elle n'y prit pas garde, non plus qu'à la dangereuse Mademoiselle Morange, en train de causer avec trois de ses élèves. La danseuse savait-elle la présence de son camarade dans le jardin, ou la devina-t-elle à la course hâtive de sa rivale? Elle se pencha pour la suivre des yeux, dans l'interstice des fûts dénudés des palmiers. Un retroussi méchant crispa soudain le coin de ses lèvres minces. Elle venait de voir René et Ériel s'aborder. Tout à l'heure, elle avait elle aussi remarqué la présence de Gilbert Faville sur la terrasse. « Je vais prévenir le frère, » se dit-elle. Certes, elle eut prolongé les quelques minutes qu'elle mit à se libérer de ses interlocutrices, si elle avait pu entendre les paroles échangées entre les deux jeunes gens, quelques phrases à peine, mais qui consommaient, d'une manière irréparable, une rupture à laquelle sa lettre anonyme avait si perfidement travaillé, car c'était bien elle qui l'avait écrite. « Monsieur Ériel, » avait interpellé René, toute tremblante. « Ah, c'est vous, Mademoiselle Faville, » avait répondu Ériel en la reconnaissant. Il s'était arrêté pour glisser son portefeuille dans la poche intérieure de son veston, qu'il boutonnait avec une tranquillité mal jouée, et levant son chapeau de sa main devenue libre. « Vous m'excusez, et aussi de n'être pas allé prendre une dernière fois congé de vous et de madame votre mère. » Sa voix changeait un peu, en achevant cette protestation de banale politesse. À regarder la jeune fille, il venait de s'apercevoir qu'elle était bouleversée, et il l'écoutait balbutier, d'une voix où se prolongeait la mortelle angoisse de ces derniers jours. « Monsieur Ériel, expliquez-moi, dites-moi que ce n'est pas vrai. « Mais quoi, mademoiselle ? » interrogea-t-il. « Ce que m'a dit M. Jaffeux, » répondit-elle, d'un accent soudain raffermi comme il arrive aux plus timides quand un sursaut passionné les a jetés hors de toute convention. Et pensant tout haut, elle allait droit à la chose qui lui tenait seule au cœur. « Oui, » continua-t-elle, « que vous aviez été son secrétaire et que... » Il l'arrêta d'un geste. Il était devenu très pâle, puis très rouge. De cette brusque et violente secousse intérieure avait jailli une volonté, préparée sans doute par de longues méditations, car ses yeux, sur lesquels avaient battu ses paupières, dardaient maintenant un regard résolu, et sa voix se faisait ferme et nette pour reprendre la phrase qui l'avait empêché la jeune fille d'achever. « Et que j'ai commis chez lui une faute très grave, oui, mademoiselle, c'est vrai. Que vous avez... que j'ai volé, » interrompit-il, avec la brusquerie d'un homme qui sait que certaines paroles, très pénibles, doivent être prononcées, mais qui veut qu'elles aient été dites par lui. Et la broche de Lady Ardran ? Implora-t-elle. C'est moi aussi qui l'ai volée, répondit-il. Cette fois, une espèce de sauvagerie passait dans son accent. Ah, mon Dieu ! Gémit René, en s'appuyant pour ne pas tomber contre le tronc du palmier sur lequel avait lieu cette explication, tragique pour elle. Elle se redressa, et ses mains, où elle cachait fiévreusement son visage, s'écartèrent dans un mouvement de terreur à s'entendre appeler par trois fois et de quel ton. « René, René, René !» C'était Gilbert, qui arrivait en courant par l'allée. D'instinct, elle fit un pas pour se mettre entre Nériel et le nouveau venu, dont l'aspect annonçait une colère qui ne se possède plus, et saisissant le bras de sa sœur d'une poigne brutale. Le frère la rejetait violemment derrière lui, criant « Tu n'as pas honte, tu vas rentrer tout de suite. » « Rentre, mais rentre ! Et vous, monsieur Pierre-Stéphane Bertin ?» Il marchait maintenant vers celui qu'il croyait le complice de René, en l'appelant de son vrai nom, dont il détachait les syllabes. « Allez-vous-en, et que je ne vous rencontre plus jamais sur mon chemin, sinon... » Il levait sa canne en proférant cette menace, à laquelle l'autre répondit par un geste pareil. Ils restèrent ainsi une minute en face l'un de l'autre, dans l'attitude de deux faubouriens qui se préparent à un ignoble duel au bâton. Puis, tout d'un coup, Pierre-Stéphane éclata d'un rire dont l'outrageant sous-entendu paralysa le véritable voleur du bijou, et haussant les épaules, il tourna sur les talons pour se diriger vers la sortie du jardin, sans plus regarder ni le frère ni la sœur, celle-ci, toujours appuyée contre le large fût du palmier, les yeux agrandis par la terreur, celui-là laissant tomber son bras et courbant à demi la tête. Le rire terrible de Nériel avait eu pour lui une signification trop claire, celle d'un mépris trop mérité. C'était comme si l'autre lui avait dit « Vous, vous, après ce que vous avez fait !» Sous le coup de cet affront, la colère du justicier fiévreux de tout à l'heure était tombée, et une humiliation passait dans sa voix pour demander à sa sœur « Mais qu'y a-t-il donc entre cet homme et toi, ma pauvre Renée ?»« Rien que ma folie !» répondit la jeune fille, qui se reprenait, elle aussi. Jamais, Gilbert, jamais, je te le jure. Il ne m'adressait une parole que maman et toi n'eussiez pu entendre. Mais c'est vrai, je m'étais fait de sa personne une telle idée. Je le plaignais tant de malheurs que j'imaginais immérités, et je le mettais si haut. Alors, quand M. Jaffeux nous a dit ces deux vols, celui des livres, chez lui, celui du bijou de Lady Ardran à l'hôtel, ça a été un effondrement. Ah, que j'ai souffert. Et puis j'ai pensé, non, non, ce n'est pas possible. Il n'a pas fait cela. Je te répète, c'était fou. Je le comprends à présent. Et puis, il y a 10 minutes, j'étais à ma fenêtre. Je le vois marcher dans le jardin. Le besoin de savoir était plus fort que tout. J'ai voulu à tout prix lui parler. Savoir, je te répète, savoir. Maintenant je sais. Et que sais-tu ? Interrogea Gilbert. Plus de doute, Nériel l'avait dénoncé. Qu'allait-il entendre, et quelle honte ! Et il écoutait, avec stupeur, la révélation d'une nouvelle générosité à son égard, qui allait lui être plus douloureuse encore. « Ce que je sais, répondait René, mais qu'il les a commis, ces deux vols. Quand il m'a dit que c'était vrai, qu'il les avait bien pris, ces livres chez M. Jaffeux, qu'il l'avait bien prise, cette broche, chez Lady Ardran, ah, comme j'ai souffert. Tu es venu. Je vous ai vu l'un en face de l'autre, vous menaçant. Alors j'ai cru que j'allais mourir. Mais c'est passé. » Elle répéta, « C'est passé. » En secouant sa tête et pressant ses doigts sur ses yeux. « Laisse-moi rentrer. Quand maman se réveillera, il faut que je lui montre un visage qui ne l'inquiète pas. J'en aurai l'énergie. » Cette reprise de sa volonté intérieure prêtait à ses traits à cette seconde une expression où Gilbert retrouva une ressemblance avec le masque si ferme de leur père et d'un accent changé aussi. « C'est affreux, continua-t-elle, que j'ai pu donner tant de mon cœur à un indigne. Ce qui m'a fait du bien, c'est qu'il a été du moins sincère avec moi, qu'il ne m'a pas menti, ni cherché d'excuses à ses fautes. Cette loyauté de l'aveu, c'est un reste d'honneur dans le déshonneur. C'eût été si dur de le mépriser tout à fait. » « Je t'accompagnerai, » dit Gilbert, comme René marchait du côté de l'hôtel. « Je voudrais... Elle ne lui laissa pas le temps d'achever sa phrase. Elle apercevait Mademoiselle Morange qui les guettait et se mettant à courir par une allée transversale. « Oh, cette femme » s'écria-t-elle. « Empêche qu'elle ne m'aborde, Gilbert. Je ne serai pas sûre de me dominer. » La danseuse s'approcha en effet des deux promeneurs. Par un mouvement instinctif, Gilbert imita sa sœur. Il s'engagea dans une autre direction pour éviter lui aussi la dénonciatrice qui haussa les épaules. Et tout en retournant du côté de la salle de danse, elle disait à voix haute « Je leur ai rendu un grand service. Ils m'en veulent, c'est la règle. » Elle ne se doutait pas, en prononçant ces mots, que cette banale remarque, bien fausse dans sa bouche, s'appliquait d'une manière saisissante à la crise traversée maintenant par le frère de celle dont elle était si vilainement jalouse. Tandis qu'il remontait à son tour vers le palace pour regagner sa chambre, il ne pouvait plus penser à rien qu'au fait extraordinaire et indiscutable qu'il venait d'apprendre. Ce Nériel contre lequel il levait sa canne quelques instants auparavant, dans un délire de fureur, s'était, pour la seconde fois, donné comme auteur de l'acte ignoble dont il portait, lui, le poids sur sa conscience. Du coup, ce témoignage apporté par René ruinait à fond l'édifice d'hypothèses construit par Jaffeux. Si ce garçon avait été le séducteur accusé par son ancien patron, se serait-il déshonoré gratuitement aux yeux de la jeune fille? Non, puisque c'était là se l'aliéner à jamais. Impossible d'imaginer qu'en agissant de la sorte, il se ménageât un moyen de pression sur le vrai coupable. Celui-ci ne voyait plus qu'un seul motif à cette attitude, adoptée à deux reprises, dans ce bureau de commissariat d'abord, puis, tout à l'heure, dans le jardin. Le voleur de livres qui s'était perdu par cette première faute avait eu pitié du voleur du bijou. Cette pitié expliquait également le prêt des 1 000 francs. Si Gilbert n'avait pas eu dans les oreilles ce rire de tout à l'heure et son insultante ironie, combien l'eût touché cette triple preuve d'une si généreuse sympathie. À 7 minutes, et trop près de cette scène, ce bienfait lui était plus qu'odieux, intolérable. Le fils d'officier, chatouilleux, par éducation et par hérédité, sur le point d'honneur, frémissait encore de l'affront. Et que l'auteur de cet affront eût eu, à son égard, de telle magnanimité, achevait de le jeter dans un état de gêne morale tel qu'il n'en avait jamais éprouvé de pareil. L'impression est si amère, pour un cœur un peu fier, de se sentir ingrat et de ne pouvoir pas ne pas l'être. Le soin que Nériel avait pris de cacher la vérité au commissaire et à René rendait au coupable la hideur de sa faute plus évidente et avivait son remords en même temps que la noblesse de ses procédés l'humiliait au plus intime de son amour-propre. Il supportait mal le rôle, par trop médiocre, qu'il avait eu dans leur rapport. Emprunt d'argent d'abord, puis règlement brutal de sa dette enfin, et surtout son silence, quand Jaffeux et René lui avaient appris que par 2 fois et volontairement, Nériel s'était substitué à lui dans cette ignoble affaire du vol. Et lui, le fils du colonel Favy, du grand blessé de Verdun, il avait accepté cette substitution en se taisant. Quelle honte! Presque pire que la faute elle-même! C'était si lâche! Entre 2 jeunes gens qui se dalisent, pour emprunter à la langue latine un mot qui nous manque et qui signifie un compagnonnage de plaisir plus cordial que la camaraderie et moins tendre que l'amitié, il se crée aussitôt une inconsciente émulation aisément ombrageuse. Chacun veut être, à tout le moins, l'égal de l'autre. De se trouver si inférieur, dans la circonstance, accablait Gilbert. Comment reconquérir un peu de sa propre estime? En ne restant pas le bénéficiaire de ce mensonge protecteur qu'il avait eu la faiblesse d'accepter, vis-à-vis de Jaffeux, parce qu'il n'avait vu dans cette substitution que la plus perfide rouerie, vis-à-vis de sa sœur, parce que la surprise l'avait paralysé. L'une ou l'autre de ces 2 défaillances devait être réparée. Pourquoi pas tout de suite? Et l'action suivant la pensée, comme il arrive dans les moments de vibration totale de notre être, il sortit de sa chambre, où il venait de passer 1 heure entière sans même s'en apercevoir, dans cette tempête de pensée, juste à temps, pour rencontrer sa mère et René, qui attendaient sur le palier de l'ascenseur. « Je me sens mieux, » disait Madame Favy, « et nous allons prendre un peu de soleil. Tu ne descends pas avec nous ?»« Volontiers, » répondit le jeune homme. « J'irai peut-être jusqu'au golf, » ajouta-t-il. « et si René veut m'accompagner ?»«
Je préfère rester avec maman, »
fit la jeune fille.
« Mais tu trouveras là-bas Monsieur Jaffeux. »
Elle avait compris que son frère désirait reprendre leur entretien si brusquement interrompu, et il était visible qu'elle s'y refusait. Ils étaient tous les trois dans l'ascenseur à présent, et tandis que fonctionnait la lourde machine, il regardait sa sœur avec une admiration renouvelée pour son courage. Il la voyait raide et distante, son mince visage tendu dans une volonté de calme, et il se rendait compte, à l'expression grave de ses yeux, qu'elle n'avait pas menti, en les répétant tout à l'heure « c'est passé ». Le frère connaissait, pour s'y être heurté sans cesse dans leurs petites disputes d'enfant, ce trait du caractère de René, cette faculté de prendre des parties avec elle-même, si pénibles fussent-ils, sur lesquelles elle ne variait plus. Ce qui était passé, hélas, ce n'était pas son chagrin. La tristesse du fond de ses prunelles le disait assez. C'était ce qu'elle appelait sa folie, cette exaltation romanesque autour d'une personnalité aujourd'hui dégradée pour elle à jamais. Lui apprendre la vérité sur le vol des bijoux risquait de rendre, dans son imagination, un prestige encore accru à cet homme, qu'elle ne pouvait pas épouser sans un drame familial, dont le contre-coup tuerait leur mère. Gilbert la regardait aussi, cette mère, aux taches rouges de ses joues, à la nervosité de ses moindres mouvements, à ses yeux plus brillants. Il constatait quel ravage exerçait déjà, sur ce fragile organisme, les émotions des derniers jours. « Non, » se disait-il, en sortant de l'ascenseur et en prenant congé des deux femmes, « mon devoir ici est de ne pas parler. Je suis sûr que Jaffeux sera de cet avis. » Comme on voit, il ne discutait déjà plus l'idée de confesser sa faute à l'ancien patron de Pierre Stéphane. À ce désir de se mésestimer un peu moins se mêlait ce besoin d'un appui moral, que les natures comme la sienne, impulsives et incertaines, éprouvent dans les crises auxquelles ces deux funestes défauts, l'irréflexion et l'incohérence, les acculent si souvent. Auprès de qui d'autre le trouvait plus sûr et plus efficace cet appui? La réaction de Gilbert contre son père n'empêchait pas qu'il ne l'admirât et qu'il ne subît l'influence de ses jugements sur les hommes. Il savait la haute opinion que le colonel avait de Jaffeux et le sentiment de marcher vers le secours assuré lui faisait hâter le pas pour franchir la distance qui séparait le Médès Palace du terrain de golf, aménagé au-delà d'un autre grand hôtel sur les bords du Gapo. L'avocat se tenait là, en effet, assis sur un banc, à l'ombre d'un bouquet d'eucalyptus. Il considérait avec un intérêt un peu badaud de vieux bourgeois français, les allées venues des 10 ou 12 joueurs en train ici de lever leur club pour donner un coup à la boule posée devant eux, plus loin faisant quelques pas pour se mettre à portée d'un autre trou. Chacun était suivi d'un petit garçon, le caddie, qui portait dans un étui les instruments de rechange.
« Vous me voyez à la fois amusé et attristé, » dit-il à Gilbert, quand celui-ci l'eut abordé. « Mais oui, j'ai de nouveau l'impression que notre vieille France tourne au pays colonisé. Regardez ces joueurs, avec les larges semelles de leurs chaussures, leurs bas d'une laine multicolore, leurs culottes bouffantes, leurs courtes pipes de bois à la bouche, leurs casquettes souples. Et rappelez-vous les gravures du punch. Ce sont des Anglais qui s'amusent à un jeu anglais, sur un champ d'exercice préparé à l'anglaise. Et ces gamins qui les accompagnent, j'en ai questionné 2 ou 3. Ce sont des Italiens. « On n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers, » affirmait ce brigand de Danton. « Je ne connais pas de paroles plus fausses. Mais si, on l'emporte. Ces Anglais restent des Anglais, ces Italiens des Italiens. Rien ne m'inquiète pour notre avenir comme cet afflux d'étrangers inassimilables, ils le sont tous, dont nous ne voyons ici qu'un minuscule épisode. Mais allons au plus pressé. J'ai entreaperçu seulement madame votre mère cet après-midi. Votre sœur est plus calme, paraît-il. Qu'en pensez-vous?
Qu'elle a beaucoup de courage, répondit Gilbert, et qu'elle se dominera jusqu'au bout.
Il y a un point noir, reprit Jaffeux. Brandoni m'apprend que Pierre Stéphane Bertin débute aujourd'hui même comme danseur à Tamaris, à l'Eden Hotel, où il a un engagement. J'ai pensé tout de suite, il est bien près d'ici. N'aurait-il pas l'idée d'en profiter pour voir mademoiselle Renée ou pour essayer?
J'ai dit à Brandoni, votre confrère de l'Eden ne vous a pas demandé des renseignements?
Non, m'a-t-il répondu. Vous pensez à mon soupçon à propos de la barrette? Vous n'avez pas su que le commissaire me l'a rendue sans vouloir s'expliquer sur la façon dont elle lui avait été rapportée. Je garde l'idée que Neria l'a bien pu, après l'avoir volée, juger plus prudent de la remettre à la police en demandant le secret. S'il en est ainsi, et qu'il commette une nouvelle indélicatesse là-bas, tant mieux pour les Médès, dont l'Éden est un dangereux concurrent. Tout ce qui peut l'unir nous sert. Quelle bassesse! Ah, les hommes ne sont pas bons. Je me demande si ce ne serait pas à moi d'avertir le propriétaire de l'Éden, et dès aujourd'hui. Vous ne ferez pas cela, monsieur Jaffeux, même si le commissaire vous avait autorisé à ces dénonciations, quand vous saurez tout. » À l'accent dont cette phrase était prononcée, l'avocat se retourna vers le jeune homme. Cette physionomie, si obscure d'ordinaire, et en particulier ces jours derniers, si fermée et si défiante, s'éclairait en ce moment. Ses yeux auxquels Jaffeux reprochait l'absence de regard rayonnaient d'une lumière de courage et de franchise. Quand on se dégrade, on éprouve le besoin de mentir. L'avocat connaissait bien cette loi de notre vie morale, et aussi que le premier indice du relèvement est un irrésistible appétit de sincérité. Tout en écoutant le véritable voleur du bijou raconter son propre égarement et ce qui avait suivi, jusqu'à la scène de cet après-midi même entre René et Nérial, il l'observait, et il avait l'évidence d'avoir devant lui un Gilbert Favy qu'il ne connaissait pas. Une autre évidence s'imposait pour lui, effarante. Si Pierre Stéphane, devenu Nérial, s'était réellement conduit ainsi, mais comment en douter? Il ne le connaissait pas davantage. Quand cette confession fut achevée, il manifesta le déconcertement extrême où elle le jetait par une attitude de réflexion et un silence que son interlocuteur interpréta comme un signe du plus sévère jugement. « Vous me trouvez bien méprisable, n'est-ce pas ? » balbutia-t-il. « Non, » répondit fermement l'avocat. Il s'est élevé, et passant son bras sous le bras du jeune homme, d'un geste paternel, il répéta « Non, non, mon enfant, vous avez tout effacé, en ne supportant pas que je pense de votre bienfaiteur ce que j'en pensais, et en vous accusant, avec cette droiture, dans un très pénible aveu. Mais partons d'ici. Il est 3 heures. D'hier à Tamaris, en auto, il y a un peu plus d'une heure. Plus que jamais, il faut que j'aille à cet Éden Hôtel, et tout de suite. » Pour m'excuser auprès de lui, de mon geste de tout à l'heure, dit Gilbert. Non, monsieur Jaffeux, j'aurai le courage de faire cette démarche moi-même, je la lui dois. Ce sera dur, mais... Mais vous ne savez pas comment il vous recevra, interrompit Jaffeux. Ni comment vous-même prendrez son accueil. Quand deux hommes en sont venus aux voies de fait, et une canne levée, c'est une voie de fait, le plus sage est qu'ils ne se rencontrent que longtemps après. Et encore. Et puis, votre injustice à son égard, j'en suis responsable, moi, et non pas vous. Oui, qui donc vous a persuadé qu'il poursuivait un plan de séduction où il voulait, par les procédés d'une amitié simulée, vous faire jouer un rôle de complice? Moi. Qui vous a représenté comme autant de pièges, et ses gentillesses de camaraderie, et son prêt d'argent, et jusqu'à cette insistance pour que vous lui promettiez de ne plus jouer? Moi. Qui donc, rapprochant son ancienne faute des autres indices, vous a montré en lui un scélérat consommé? Toujours moi. Si quelqu'un lui doit une réparation, c'est moi. Mais Gilbert, ce n'est pas à cause de vous seulement que j'ai besoin d'aller à Tamaris, de l'interroger, de comprendre. Écoutez-moi bien, mon enfant, et souvenez-vous, toute votre vie, de ce que vous dit aujourd'hui un vieillard bien ému d'avoir constaté en vous ce sentiment aigu de la responsabilité, ce passionné désir de s'estimer soi-même qui fait l'honnête homme. On n'est pas seulement responsable de ses propres actions, on l'est aussi de celles des autres, quand on en fut la cause indirecte. Il y a une phrase dans un psaume qui exprime cela magnifiquement. « Delicta quis intelligit ab occultis meis mundame. » Qui connaît toutes ces fautes? Purifiez-moi, Seigneur, de celles qui me sont cachées. Je n'ai jamais pensé à mon ancien secrétaire depuis des années sans que ce verset de l'Écriture ne me revînt à la mémoire. Avais-je bien agi en étant si dur pour lui? Car j'étais très dur, comme je l'aurais été de nouveau en toute occasion après ce que je croyais de sa conduite aux Médès. Vous m'avez rendu un tel service, mon ami, en m'éclairant par votre confession. Mais ce qu'elle ne m'a pas appris, c'est le motif pour lequel Pierre Stéphane s'est conduit de la sorte. C'est l'histoire de son caractère. et ce qu'il est devenu dans ce métier extraordinaire que vous prétendiez lui envier. Je m'en rends compte maintenant. Vous aviez cette fièvre du remords, qui a ses délires comme l'autre. L'événement qui a dominé sa destinée, ça a été ce vol chez moi et la façon dont je l'ai chassé. Quand je l'ai retrouvé, danseur mondain dans ce palace, ma première idée a été « c'est un peu à cause de moi, tout de même, qu'il s'est déclassé ». J'ai eu ensuite tant de raisons vraisemblables de supposer chez lui une perversité foncière. Sa conduite avec votre sœur, avec vous, telle que je la connaissais, cette histoire du bijou. Votre témoignage m'a rendu tous mes doutes sur lui et sur ma sévérité d'autrefois. Qui est-il vraiment? Je vais essayer de le savoir. Et s'il refuse de causer avec vous, fit Gilbert, s'il se dérobe? Et, douloureusement, ah, vous n'avez pas entendu son rire quand j'ai marché sur lui. J'en garde la sensation d'avoir reçu un soufflet. Je ne peux pas supporter qu'il pense de moi ce qu'il en pense. S'il se dérobe, répondit Jaffeux, vous serez toujours à temps de lui écrire. Je vous ferai votre lettre, ajouta-t-il sur un geste de détresse du jeune homme. Mais il ne se dérobera pas. Lorsqu'on a rompu comme lui avec tout son milieu et que l'occasion s'offre de s'expliquer avec quelqu'un qui vous le représente, on la saisit et on parle. Je le jugerai là-dessus. Comme ils étaient devant le Medes Palace, il appela de la main un des chauffeurs qui stationnait devant la porte et, revenant à Gilbert, « Une promesse seulement, pas un mot à votre sœur. Pour qu'elle guérisse, il faut qu'elle continue à être abusée, je sais. Vous souffrirez beaucoup à l'entendre vous dire qu'elle méprise cet homme. Le supporter, ce sera pour vous l'expiation. D'ailleurs, vous lui devez ce silence, à lui aussi, puisqu'il a voulu qu'elle le crût coupable. » « Mais pourquoi l'a-t-il voulu ?» demanda Gilbert. « Je vais le savoir, » répondait Jaffeux. Déjà, il était monté dans l'auto. Il avait dit au chauffeur « À Tamaris, à l'Eden Hotel. » Et comme le moteur ronflait, il se pencha par la fenêtre de la portière pour renouveler au frère de René sa dernière recommandation. « Pas à moi, René, et à tout à l'heure. »